Et je me disais, mais Seigneur, de quoi veux-tu que je parle? Et je savais qu'il y avait des sujets qui me parlaient, mais de là à avoir le temps de les creuser, et etc., je me disais, oh, Seigneur, aide-moi. Et puis, avec mon père, on échange beaucoup, et ça, c'est, je trouve, l'un des meilleurs moments de ma vie, c'est tous les échanges que j'ai avec mon père par rapport à, justement à ses messages à lui et mes messages à moi. On échange beaucoup l'un et l'autre, et c'est franchement génial. Et on a échangé sur la Sainte Cène. Et lui est tombé sur un texte de Billy Graham qui parle de la Sainte Cène. Et en fait, je trouvais que c'était parfait parce que ça fait partie de différents points sur lesquels je voulais parler dans l'année, dans les 10 ans à venir, mais plutôt dans l'année quand même, on va faire plus court. Et il y avait ce sujet, la Sainte Cène, parce que vous allez voir, alors je vais en parler de la Sainte Cène, parce qu'il y a des clés. Et la Sainte Cène, c'est pas juste du pain et du vin comme on le prend. Et des fois, on se dit, oh ben là là, le verre est trop petit, ou c'est du jus de raisin, ou etc. Moi, ce que je vous invite, c'est à voir la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Et vous allez voir qu'il y a une force spirituelle qui est hyper importante. Il y a d'autres sujets aussi sur lesquels je voulais parler. Il y avait l'amour, la puissance de l'amour. Parce que l'amour, c'est un vaste sujet. D'ailleurs, c'est tellement profond et tellement large, on dit la Bible, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Mais ce sera la prochaine fois. Non, voilà, c'est comme ça, et pas autrement. la Sainte Cène, vous en avez déjà entendu parler 1000 fois, peut-être au début, quand vous vous êtes converti, peut-être pas. Peut-être que c'est des choses que vous croyez savoir, etc. Moi, ce que je vous invite juste ce matin, c'est de se dire, finalement, Seigneur, Jésus, qu'est-ce que tu as voulu nous laisser? Qu'est-ce que tu as voulu nous dire au travers de la Sainte Cène? Qu'est-ce que ça a comme réalité aujourd'hui dans ma vie? En fait, la Sainte Cène, c'est quelque chose que 99% des croyants soit ignorent, soit ont oublié. Et derrière, il y a une puissance. Et pour ça, il y a le passage juste après de Jean, 6, 41 à 63. Alors, on va le lire, si vous avez des Bibles, sinon il est affiché là, mais c'est petit pour ceux qui sont au fond. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « Mais n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je l'avais déjà dit, mais c'est Amen, Amen. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. À nouveau, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Amen, Amen, qu'il en soit ainsi, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi aussi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Alors bien entendu, on est d'accord, il ne deviendra pas Superman qui vit éternellement, c'est juste que il vivra éternellement en esprit. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est ma conclusion. Mais bon, on va quand même parler de tout le reste. Mais Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans Éphésiens 6, au verset 12, c'est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons donc à lutter dans une guerre contre les puissances spirituelles. » Amen, on le voit bien aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent. Même dans nos familles, vous pouvez avoir quelqu'un à qui vous avez envie de dire quelque chose parce que vous savez qu'elle va dans le mur. Et puis des fois, il faut mieux se taire. Il faut mieux prier pour cette personne. Moi, je l'ai déjà raconté mille fois, mais c'est pas grave. Mes fils me disent déjà que je radote, alors j'en suis plus à ça près. Mais ma grande sœur, donc, qui est mariée, pendant un bon moment, pendant quelques années, ça se passait très mal dans son couple avec son mari. Et j'avais qu'une envie, en tant que frère, c'est d'aller voir son mari et de lui dire clairement ma façon de penser. Avec amour, je ne sais pas, mais en tout cas de lui dire. À ce moment-là, j'étais comme ça. Et puis finalement, soit j'ai été lâche, soit en tout cas j'ai été plus sage, j'en sais rien, je choisissais, moi je m'en fiche. En tout cas, j'y ai pas été et c'est très bien. Et on a prié avec ma famille. Et un jour, mon beau-frère, il s'est retrouvé dans une église qui n'était pas la sienne. Et il a vécu une transformation complète en un dimanche matin, alors que ça faisait des années que ça durait. Et en un dimanche matin, Dieu lui a parlé, lui a révélé des choses. Il est tombé à genoux pendant le culte dans cette église en région parisienne. Et sa vie a été transformée. Et c'était plus du tout le même. Et pourtant, il était chrétien. Hein, mais de par le travail qu'il avait, de par l'ambiance qu'il y avait à son travail, de par la pression qu'il se mettait par rapport à sa vie professionnelle, etc., ça lui bouffait sa vie, ça lui bouffait sa vie personnelle, ça lui bouffait sa vie spirituelle. Ce que je voulais dire par là, c'est que on a des combats où on n'a pas besoin forcément d'aller voir la personne. Il y en a d'autres où c'est important de dire à la personne, attention, tu te plantes. Et il y en a d'autres, c'est important de se mettre dans la prière et de déclarer la vérité de la parole sur leur vie. Et les miracles sont encore plus parfaits. Amen. Dieu nous a donné une arme juridique. Donc on a à se battre contre les puissances spirituelles, mais savez-vous que Dieu nous a donné une arme juridique extraordinaire, une ordonnance qui ne se contente pas de commémorer la mort de Christ. Ce n'est pas juste en mémoire d'eux, même s'il a dit en mémoire d'eux, mais vous verrez plus tard. Ce n'est pas juste pour se rappeler, ce n'est pas juste un signe, ce n'est pas juste un symbole. C'est vraiment quelque chose qui proclame activement sa victoire sur toutes les forces qui s'opposent à nous, à lui. Toutes les puissances spirituelles. Et ça, c'est une arme juridique et on va le développer. Donc, je l'ai dit, la scène n'est pas qu'un acte de mémoire pieuse, ça veut dire d'affection ou de respect par rapport à Jésus ou son sacrifice pour nous. C'est une déclaration de guerre. La Sainte Cène, c'est une déclaration de guerre. C'est l'activité légale de l'alliance du sang qui brise les chaînes invisibles et qui ouvre les portes verrouillées de notre vie. Eh oui. Et vous allez voir, en tout cas moi, je pense que j'ai une vraie révélation par rapport à la Sainte Cène et je me rends compte que ô combien de fois je l'ai mal prise. Ô combien de fois j'étais complètement à côté. Et peut-être que ça a eu des effets dans ma vie. J'en sais rien. Je remets tout ça à Dieu. J'ai tout remis à Dieu. Mais peut-être que ça a eu des effets dans ma vie. Et vous verrez que Paul, il est dur par rapport à la Sainte Cène quand il en parle. Et Jésus aussi. Le problème, c'est que nous avons réduit cette ordonnance puissante à un simple rituel du dimanche. Nous l'avons vidé de sa substance prophétique et de son autorité spirituelle. Nous avons transformé une arme de guerre en un ornement religieux que l'on fait par habitude, bien souvent. Pas forcément dans notre église, mais en tout cas, Il y a pas mal d'églises où on le fait, parce que si on ne le fait pas, oulala. Mais ce n'est pas le fait de le faire qui est important, c'est la façon dont tu le fais, comme tout. Ça n'a rien d'avoir de la quantité si tu n'as pas la qualité. Il faut viser la qualité. Donc pour viser la qualité, par rapport à la scène, il faut déjà savoir ce que c'est réellement. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 26, Paul révèle quelque chose de saisissant. Il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors là, « toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe », il y a le mot ensuite « vous annoncez ». Et alors le mot « annoncer » en grec, c'est « kataghelo ». Ça signifie « annoncer », mais ça signifie également « proclamer publiquement ». Promulguer, on promulgue une voix, ça veut dire qu'on dit, c'est bon, enfin je crois, en fait j'en sais, mais il me semble que promulguer une voix, ça veut dire que c'est bon, elle est écrite, et on peut l'utiliser. Nous déclarons donc avec autorité, voire même, cela peut se rapporter à un cri de guerre. Quand on déclare quelque chose, quand on proclame publiquement, croyez-moi que les Hébreux, ils l'ont utilisé plusieurs fois pendant la guerre, ils ont déclaré publiquement qui était Dieu. C'était des cris de guerre. En tout cas, kataghelo, vous annoncez, c'est proclamer publiquement. Si vous prenez la scène avec cette déclaration, vous proclamez quoi ? La défaite de Satan. Vous déclarez que le sang de Jésus a coulé non seulement pour pardonner vos péchés, mais pour briser. Allez, il ne faut pas définitivement. J'ai pas mis la chemise, alors je saurai la prochaine fois. Donc, à chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, on déclare que le sang de Jésus a coulé non seulement pour pardonner tes péchés, mais pour briser chaque malédiction, chaque blocage dans ta vie, chaque forteresse qui se lève contre ton héritage spirituel. Mais attention, parce que cette vérité, elle ne peut pas être activée dans la négligence ou la routine. Par exemple, Paul nous dit au verset 27 et 29 dans 1 Corinthiens 11 toujours, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est peut-être la clé dans certaines vies, de maladies, de choses qui arrivent dans ta vie et qui ne sont pas claires, ou tu ne sais pas pourquoi. Moi, clairement, j'ai remis, parce que je les empile, moi, les maladies et les machins et les trucs, mais j'ai remis ça au Seigneur parce que je me dis, effectivement, il y a peut-être une clé là. Il y a peut-être une clé sur certaines choses. Alors, il y a des héritages, il y a des péchés, des portes ouvertes qu'on laisse à l'ennemi. Et puis, il peut y avoir aussi cette chose-là. Donc, c'est important de le savoir, en tout cas. C'est important de le prendre en compte dans sa vie. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il est dur, là, Paul. Hein, et en même temps, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Il y a donc une façon de prendre la scène qui libère la puissance de Dieu, et il y a une façon qui, entre guillemets, la neutralise. Paul parle même finalement d'une sorte de protocole biblique précis qui transforme cette ordonnance en clé maîtresse pour ma liberté spirituelle. Pour comprendre la puissance cachée de la scène, on va retourner à l'Ancien Testament. Et dans Exode 24, Dieu il établit un principe spirituel fondamental que la plupart des croyants ont oublié. On va regarder la scène dans Exode 34, c'est Moïse qui vient de recevoir donc, la loi sur le mont Sinaï, et le peuple d'Israël se tient devant lui, devant l'Éternel, pour ratifier l'alliance divine. Mais écoutez bien attentivement comment cette alliance elle a été scellée. Moïse construit un autel et il dresse 12 pierres pour chaque tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Puis il demande à des jeunes hommes d'offrir des holocaustes et ils immolent des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Et si vous regardez Exode 24 au verset 8, Exode 9, je crois. Non ?
Parce que tu as dit 24 et 34.
Non, c'est 24. Non, parce qu'il y avait un autre chapitre où je m'étais trompé, mais j'espère que ce n'est pas celui-ci. Exode 24 au verset 8. Moïse prend le sang et le répand sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Donc il prend le sang du sacrifice. Il y a une partie qui verse sur l'autel, une partie qui verse sur l'Holocauste. Et puis, il y a une partie, il asperge sur le peuple. Et il dit « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Donc on va s'arrêter un instant sur ça, parce que c'était pas un geste symbolique en soi. C'était l'activation légale d'un contrat spirituel, une alliance. Il a scellé l'alliance en faisant ça, entre Dieu et son peuple. Le sang versé proclamait devant toutes les puissances célestes et terrestres que cette alliance est irrévocable, incontestable et valide. Et il y a une révélation derrière profonde, si vous regardez, je l'avais enseigné par rapport à la Pentecôte. Si on regarde bien tout ce qui s'est passé quand ils sont sortis d'Égypte, ben en fait, il y a plein de choses, si vous regardez ensuite, quand Jésus a été crucifié à la croix et le nombre de jours qui s'est passé par rapport à sa résurrection et tout. C'est vraiment, le temps est exactement le même. Entre la sortie d'Égypte, le moment où Dieu parle au peuple d'Israël, il se révèle à eux. Et le moment où Jésus est sacrifié, enfin est cloué à la croix, et le moment où il y a la Pentecôte. Le moment où, où Dieu se révèle, il y a exactement le même temps. Alors je crois que c'est 50 jours, je n'ai plus le truc exact, mais je pourrais vous le retrouver, puisque c'est moi qui l'ai donné. En tout cas, ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte, c'est une préparation, une annonce de ce qui allait se passer avec Jésus. Ce sang n'était qu'une ombre de quelque chose d'infiniment plus puissant. Il y a cette alliance qui a été faite entre Dieu et son peuple, elle annonçait une autre alliance que Jésus a fait avec son peuple. Et si on lit dans Hébreux 9, 14 à 15, c'est écrit « Combien plus le sang de Jésus qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» En d'autres termes, de façon bien plus simple, si le sang des animaux pouvait ratifier une alliance temporaire avec un peuple terrestre, ben le sang de Jésus, lui, il a des implications bien au-delà et pour l'éternité. Chaque fois que vous proclamez cette alliance par la scène, vous activez une autorité légale qui rassemble le temps et l'espace que vous pouvez. Et vous pouvez penser cela comme un acte notarié, en fait. C'est ça ? C'est-à-dire, on vient, on signe devant un notaire, ça acquiert une force légale incontestable de la même manière. Donc à chaque fois qu'on prend la Sainte Cène. C'est plus juste « faites ceci en mémoire de moi ». Si on regarde bien ce qu'il y a derrière, Jésus il dit « ceci est mon sang, ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il ne dit pas « c'est le symbole, ça ressemble à ou ça vous rappellerait mon corps et mon sang ». Non, il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et c'est d'ailleurs la réaction des Juifs, si vous regardez. Les Juifs, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, attends, il est en train de dire qu'on va le manger, quoi. Ça y est, on est chez les fous. Ce soir, il va y avoir une grande marmite et on va cuire Jésus. Et puis on... Mais non, il dit simplement que dans votre temps à vous, lui, il ne sera plus là. Mais par contre, ce sera toujours son corps et son sang. C'est pas juste pour un moment donné. C'est pas juste par rapport à son sacrifice, au moment de son sacrifice à la croix. C'est pour l'éternité. Et c'est pour rappeler cette alliance, pour faire appel à cette alliance dans nos vies. Alors, le texte là, à partir duquel j'ai fait le message, c'est Billy Graham qui l'a écrit. Et il raconte le témoignage écrit par Martin Luther, que j'ai perdu. Hop, hop, hop. Voilà. Donc Martin Luther, vous connaissez tous. Ce géant de la réforme qui comprit la puissance de l'alliance par le sang. Il a fait face à des attaques spirituelles terrifiantes. Si vous lisez quelques textes de lui, il en parle souvent. D'ailleurs, on le prend encore. Si on regarde un peu les commentaires qui sont faits sur ces textes, on dit il était juste fou, il était un peu taré. Mais il y a des choses qui paraissent réelles dans tout ce qu'il raconte. Après, on le saura là-haut, moi j'ai envie de dire. Peu importe, c'est pas là-dessus que je vais baser ma vie chrétienne, mais c'est un exemple de ce qu'il raconte. C'est intéressant en termes de témoignage. Un soir, alors que Luther était dans sa cellule, Satan lui apparut sous une forme terrifiante, l'accusant de ses péchés, essayant de le convaincre que sa réforme était une œuvre de rébellion. Mais Luther, fort de sa compréhension de l'alliance du sang, répondit avec une autorité foudroyante « Va-t'en, il est écrit, le sang de Jésus purifie de tout péché. » Et l'ennemi disparut alors instantanément, incapable de résister à la proclamation de cette alliance. Mais ça, on en a plein des témoignages. Là, c'est Martin Luther, mais il y a plein de témoignages par rapport à la déclaration par rapport au sang de Jésus ou par rapport au nom de Jésus également. En tout cas, Martin Luther, à ce moment-là, il ne se contente pas simplement de citer un verset. On voit bien, il est écrit, le sang de Jésus purifié de tout péché, va-t'en. Il a proclamé une vérité, une réalité légale. Il a brandi l'autorité du sang comme une épée spirituelle qui tranche toute accusation, toute condamnation, toute malédiction. Est-ce que quand tu prends ta scène, tu réalises que le sang que tu prends là, c'est une arme que tu peux déclarer sur ta vie à ce moment-là contre toute accusation, toute condamnation, toute malédiction sur ta vie. On ne se contente pas de manger du pain et de boire du jus de raisin ou du vin, mais on proclame devant toutes les puissances des ténèbres que l'alliance du sang de Jésus est active dans notre vie. Et cela a du sens réel et puissant. Ça vous parle ? Alors, je continue. Dans le verset, là, David, si je veux bien que tu le... Juste la slide d'avant. C'est le verset 63 de Jean 6. Ah ben, c'est tout en bas. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites... » Son esprit et vie. Donc ce n'est pas juste un repas, mais il nous appelle à le prendre dans l'esprit. Mes paroles sont esprit et vie, la chair ne sert de rien, dans d'autres versions. Donc on mange du pain et l'on boit du vin, mais ce n'est rien comparé à la dimension réelle dans l'esprit. Et là, c'est encore une autre particularité de la Sainte Cène. C'est pas juste quelque chose de physique qu'on fait là. Bah déjà, on rappelle énormément de choses par rapport au sacrifice de Jésus à ce moment-là. Et on peut les déclarer sur nos vies. Et on peut les déclarer à voix haute au moment où on prend la Sainte Cène. Pourquoi ? Parce que le mot « vous annoncez la mort de Jésus », quand Paul en parle, c'est déclarer publiquement. Ce n'est pas juste dans son coin en se cachant. On peut déclarer les choses. Et d'ailleurs, le peuple hébreu est un peuple qui déclare beaucoup, qui déclare avec la voix, avec des paroles, avec des chants. Ils le disent avec des mots. Voilà. Ils ont des moments de silence, mais ils ont beaucoup de moments aussi où ils déclarent les choses. Et voici ce que l'ennemi craint le plus, le croyant qui comprend l'autorité légale de l'Alliance, car il sait qu'il ne peut pas contester un contrat signé par le sang du Fils de Dieu. Donc si Jésus est actif dans ta vie, si tu sais ce que signifie la scène, si tu déclares que tout ce qui s'oppose à cette alliance doit céder dans ta vie, eh bien le diable il va fuir. Il ne va pas avoir le choix. Alors, soit il va comprendre tout de suite, soit il va falloir que tu lui rappelles. Il est têtu des fois. En tout cas, il aimerait bien nous faire du mal. Et donc, il revient à la charge. Eh bien, dans ce cas-là, on lui rappelle les vérités, la vérité biblique. Et ce n'est pas juste, je prends mon petit verre et je prends mon petit bout de pain. C'est OK, ça, c'est réel. On va passer de l'Ancien Testament, on était sur Exode 6, on va passer sur Matthieu 26, du verset 26 à 28, dans le Nouveau Testament. Et là, dans le Nouveau Testament, Jésus, il révèle la dimension complète de cette arme spirituelle. Donc on regarde dans Matthieu 26, verset 26 à 28. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. C'est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Alors, notez bien ici que Jésus, il ne donne pas un truc, une suggestion aimable. « Prenez-en si vous avez envie, ça peut servir. Non. Il donne une instruction bien précise. Quand il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance », il établit un protocole légal qui transcende tout. Il ne parle pas de signe ou de symbole, c'est son corps, c'est son sang. Donc il ne parlait pas symboliquement. Dans ce moment, il établissait un contrat, il créait un mécanisme par lequel chaque croyant pourrait activer l'autorité de son sacrifice de façon continue et personnelle. Et voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous compreniez. Chaque fois que vous prenez la scène avec foi et révélation, vous renouvelez votre alliance. Vous déclarez devant les puissances et les principautés que vous êtes couverts par le sang de l'agneau. C'est une déclaration, c'est une prise de position. Si tu prends ta trompette, tu prends ton drapeau et tu le montes bien à l'ennemi. Quand tu prends la Sainte Seine, c'est ça que tu fais. Est-ce que tu réalises que c'est ça que tu fais? Et que derrière, ça ne veut pas dire que tout sera rose, bien au contraire. Que l'ennemi, il va fuir, mais il n'a qu'une envie, c'est de revenir à l'attaque. Mais ce n'est pas grave. On a l'autorité de Jésus, on a la protection du sang de Jésus. On a tout ce qu'il faut à notre disposition. C'est juste qu'il faut qu'on en soit conscient. Dans Apocalypse 12, au verset 11, Jean révèle le secret de ce qui a vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette victoire, elle n'est pas future, elle est disponible maintenant, chaque fois qu'on proclame l'alliance de la scène. Alors, je vais vous poser une question. Depuis combien de temps est-ce que tu affrontes le même combat spirituel, la même difficulté? Depuis combien de temps cette même porte reste-t-elle fermée dans ta vie? Est-ce que depuis combien de temps il y a des choses qui, dans ta vie, tu voudrais que ça bouge et ça ne bouge pas? Tu voudrais que Jésus te guérisse par rapport à telle chose et ça ne le fait pas. Tu voudrais que telle chose se débloque dans ta vie et ça ne le fait pas. Alors l'une des clés, pour moi, c'est la Sainte Seine. Parce que c'est l'une des armes les plus puissantes que Dieu nous a données, que Jésus nous a données. Déjà d'une, il y a son sacrifice qui nous libère. Mais derrière, il faut que nous, on rappelle à l'ennemi la réalité de ce sacrifice. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, verset 11, pardon, excusez-moi, mon texte a sauté, c'est bien les tablettes, mais... chapitre 11, verset 29, il dit donc à celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors là, le mot discerner, c'est le mot grec diakrino, qui signifie distinguer, reconnaître la vraie nature. En d'autres termes, si vous prenez la scène, sans comprendre sa nature, ce que c'est réellement, que c'est une alliance, sans reconnaître son autorité légale, vous passez à côté de sa puissance qui transforme. Vous passez à côté de la réalité de ce que c'est. Une autre vérité que Satan craint le plus avec la Sainte Seine, c'est que si le croyant croit et sait que la Sainte Seine, ce n'est pas un souvenir du passé, mais que c'est une proclamation du présent. C'est ton passeport que tu montres à l'ennemi. Tu dis, hey, Coco, Moi, désolé, mais je viens avec du pain et du vin et je sais ce que c'est derrière. Je sais quelle est la réalité derrière. Je sais pourquoi Jésus m'a donné ça et pourquoi il me demande de le refaire jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pour te dire, t'as perdu. C'est pas juste pour passer un moment le dimanche matin avec les autres croyants. C'est pour te rappeler à toi. Et c'est pour me rappeler à moi le sacrifice de Jésus. Et pour le rappeler à l'ennemi aussi. Mais c'est quelque chose qui se vit dans le présent. Si on regarde, Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». En mémoire, on l'utilise bien souvent et on l'utilise de la mauvaise façon. Mais en mémoire, c'est anamnésis. Ça ne veut pas dire un souvenir long du passé, mais c'est la présentation active d'un événement dans le présent. C'est rappeler un événement dans le présent. Alors après, la conjugaison, je vous laisse gérer. Hein. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, on ne se souvient pas seulement de la croix, on la rend présente, on la rend active dans notre situation actuelle. En mémoire de... Faites ceci en mémoire de moi, c'est ça. C'est pas pour se rappeler d'eux, c'est pour dire, maintenant, elle est active dans ma vie. Maintenant, cette croix, c'est une réalité dans ma vie. Donc, quand tu prends la Sainte Cène, après tout ça, ben, finalement, ça devient une déclaration prophétique. Tu proclames tout ce que Jésus a accompli sur la croix, la guérison, la libération, la profession de foi, la protection. Et maintenant, tu rends tout ça opérationnel dans ta vie. Et je crois que c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé aussi. C'est de me dire, mais en fait, il y a plein de choses que j'aimerais qu'ils soient réglées dans ma vie. Des difficultés par rapport à ça, par rapport à la maladie, par rapport à, je sais pas, des difficultés par rapport à des fois à ma façon de dire les choses ou de prendre les choses. Et je sais que on n'est pas parfait, on le sera là-haut. Mais d'ici là, on peut que s'améliorer. Mais je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des clés sur lesquelles j'ai buté ou que j'ai pas compris, etc. Et pour moi, la Sainte Cène, c'est l'une des clés qu'on oublie bien souvent. C'est une réalité que tu dois rappeler dans ta vie, par rapport à tout ce que tu vis. Le sacrifice de Jésus, il est vivant aujourd'hui pour moi. Et quand je prends la Sainte Cène, je me rappelle et je dis à l'ennemi, Jésus a donné sa vie pour moi, pour me libérer du péché, pour me libérer de la mort spirituelle, pour me libérer de la maladie. Et c'est ça que je veux te dire, ennemi. Et je veux me réjouir de ça avec Dieu. Donc il y a peut-être une façon bien efficace de prendre la Sainte Cène. C'est la façon dont en parle Paul. Il dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Donc avant de prendre la Cène, examine ton cœur, confesse tes péchés non résolus, va voir ton frère et ta sœur qui t'énervent, que tu ne supportes plus, à qui tu ne l'as jamais dit mais tu pourrais le dire. Avec des mots simples. Quand tu dis ça ou quand tu fais ça, ça me blesse. C'est pas l'attaquer, c'est lui dire que la façon dont elle fait les choses, toi, ça te blesse. C'est pas pareil. C'est pas dire, oh, tu parles mal, tu me parles toujours mal, j'aime pas quand tu parles, etc. Non, c'est la façon dont tu l'as fait. Moi, ça me touche, moi, ça me blesse. Et vous verrez que vous pourrez plus facilement parler aux gens comme ça. Et c'est important de le faire. Quand t'as fait ci, quand t'as fait ça, ben moi, ça m'a blessé. Peut-être que la personne, elle ne savait pas du tout, à ce moment-là. Elle en était à mille lieues. Mais toi, ça t'a blessé. Ok, ben dans ce cas-là, règle les choses. Laisse pas l'ennemi avoir le pied dans la porte, là, puis lui, il pousse. Et c'est avec ces choses-là que tu lui ouvres la porte. La deuxième chose, c'est peut-être que la Sainte Cène, faut pas la prendre en silence, parce que dans tout ce que je vous ai dit, c'était écrit, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus, vous déclarez publiquement. Donc à voix haute, tu peux proclamer que le corps de Jésus, qui a été brisé pour toi, il guérit ton corps, il restaure ta vie. Tu déclares que le sang de Jésus purifie ta conscience, tes pensées, ton cœur, qui brise toute malédiction sur ta destinée, sur celle de tes enfants également, si tu en as. Troisième chose, confrontez directement les forces qui s'opposent à vous. Il faut les nommer. Je vous en ai parlé, moi, pour moi, la maladie, il peut y avoir des divisions familiales, des blocages professionnels. Déclare que l'alliance du sang de Jésus annule toute leur autorité à ces choses-là sur ta vie. Que ça annule l'autorité de l'ennemi sur ta vie. Parce que toi, tu as une alliance bien supérieure à toutes ces choses. Avec quelqu'un de bien supérieur à toutes ces choses. Je crois que je vais m'arrêter là. Jésus, il a dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la fin du monde, pour la vie du monde. » Pardon. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Amen. Là, il est complet, je trouve, Jean 6, verset 41 à 63. Et Jésus, il parle de ça, de la Sainte Seine, et il en parle magnifiquement. Il y a tout là-dedans. Il y a tout dans ces versets. Alors, je vous propose une chose, ce n'était pas prévu normalement aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On va prendre la Sainte Seine, maintenant, pour terminer. Et donc, je vous invite à le faire. Examine-toi, toi-même. Eh oui, c'est entre toi et Dieu. Examine-toi toi-même. Prends le temps de voir quels sont les blocages dans ta vie, les choses que tu aimerais qui bougent, les verrous tu aimerais qui sautent, les portes tu aimerais qui s'ouvrent, et peut-être celles aussi que tu aimerais qui se ferment, les montagnes que tu vois devant toi qui t'empêchent d'avancer. Et en prenant cette scène, on rappelle et on déclare que le sacrifice de Jésus est suffisant pour ma vie. Amen. Alors je vous invite, on va prendre 2 minutes là. Je vous invite vraiment à fermer les yeux et c'est entre toi et Dieu, c'est entre toi et Jésus. Laisse le Saint-Esprit te parler, te révéler éventuellement des choses que tu n'aurais pas en tête. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci pour chacune et chacun d'entre nous, Seigneur. Tu sais où on en est dans notre vie avec toi, Seigneur. Tu sais où on en est dans notre approche et notre compréhension de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et je te prie ce matin vraiment que ces paroles s'en aillent pas sans avoir fait leur effet, Seigneur. Qu'on ait une révélation réelle, Seigneur, de ton sacrifice dans nos vies, de ce qu'est la scène, Seigneur. Que ça devienne une réalité dans nos vies. Une réalité, que cette alliance devienne une réalité dans nos vies, Seigneur. Que tous les blocages que l'on peut avoir, Seigneur, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans nos pensées, dans nos corps, Seigneur, par rapport à l'extérieur aussi, que tout ce qui en nous empêche d'être bien, d'être libre, eh bien, Seigneur, on rappelle ton alliance par rapport à ces choses. On rappelle ton sacrifice par rapport à ces choses. Et on déclare que cette alliance a été... Je l'ai signée avec toi, Seigneur. Par le pain et par le sang, Seigneur, je veux rappeler, je veux dire à l'ennemi qu'il a perdu. Qu'il a perdu sur ma vie, qu'il a perdu sur la vie de mes enfants et qu'il n'a aucun droit, aucune autorité. Seigneur, on tient à nous mettre en ordre de marche avec toi, Seigneur. À tous les pas qu'on fait de travers, Seigneur, pardonne-nous. Mais je sais que toi, tu es bon et tu es ce Dieu de grâce qui nous rappelle. Comment marcher droit, comment aller vers la cible. Alors merci Seigneur pour toutes les fois ce matin, comme tous les autres moments, Seigneur, où nous avons eu une révélation de ta parole, Seigneur. Et moi, je te remercie pour ces moments-là, ces derniers temps, ces échanges qui me permettent, Seigneur, d'avoir des révélations sur des choses qui me paraissaient, que j'avais l'impression de déjà comprendre, déjà connaître, mais que ça devienne quelque chose de puissant dans nos vies, de réel dans nos vies, Seigneur. Qu'on sache qu'on peut utiliser la scène, Seigneur, pour notre propre vie, pour déclarer dans nos vies que Jésus est le maître, Jésus est le roi des rois, Jésus est le Seigneur des seigneurs, et que l'ennemi n'a aucun droit, Père. Alléluia. Alors merci pour toutes ces choses, Seigneur. Merci pour ce pain et ce vin que nous allons prendre, Seigneur, et que nous puissions, pour le futur, les autres fois, les prendre d'une façon différente, Seigneur. Et moi, je veux déclarer, Seigneur, publiquement, tout ce qui m'empêche d'avancer, Seigneur. Que ce soit la maladie, Seigneur, le diabète qui me pourrit la vie, Seigneur, que ce soit le stress au travail, Seigneur, tu es bien au-dessus de toutes ces choses, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que chacun puisse, si vous ne pouvez pas le déclarer haute voix, déclarez-le déjà, à voix basse, mais déclarez ces choses. Vous savez pourquoi ? Parce que l'ennemi vous entend, le diable ne vous entend pas quand vous pensez. Tu peux penser, il ne t'entend pas. Dieu peut t'entendre. Par contre, quand tu le déclares à voix haute, il t'entend. C'est tout simple.